poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño.
Bonjour, autre radio, autre culture. Émission également relayée sur audiopeople.fr et 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous recevons le groupe Los Machu Combos, groupe mythique. Et j'ai autour de moi, alors j'ai la joie et le plaisir de recevoir Romano Zanotti et Raphaël Gayuso.
Bonjour.
Bonjour Marion. Bonjour.
Alors, on va parler de cette épopée inimaginable du groupe Los Machu Combos. Et la question première, c'était de savoir qu'est-ce que vous veniez faire dans le 6e arrondissement.
Tu veux commencer? Tu veux dire quelque chose?
Mais on est venu chacun de notre côté pour différentes raisons. Bon, je parle pour moi, je suis venu à Paris en tant qu'étudiant, je venais étudier les Français surtout. Et puis il y a des amis qui m'ont amené dans une boîte, il y avait de la musique espagnole et sud-américaine qui s'appelait l'Escal. Et voilà, je suis resté un peu dans le quartier parce que c'est le premier quartier que j'ai connu à Paris. Et c'était près de la Sorbonne où j'ai fait des études et c'était près de l'Escal où je pouvais passer mes soirées. Voilà.
Est-ce que tu étais musicien avant tout, en même temps qu'être étudiant, est-ce que tu étais également musicien?
Bon, musicien plutôt amateur. J'avais fait des études de musique dans le conservatoire de Madrid. J'ai joué la guitare et j'ai chanté, mais surtout pour des amis et pour des petites réunions et une radio de temps en temps à Madrid, mais enfin pas vraiment professionnel.
Et toi, Romano?
C'est un peu la même chose. Moi, je faisais l'Académie des Beaux-Arts et à Rome. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, dans les années 56, comme ça, 55-56, les nombrils du monde, c'était Paris et surtout le quartier latin, parce qu'il y avait toute l'intelligentsia mondiale, européenne. Et donc, il fallait être là, quoi. Enfin, il fallait absolument capter ces moments exceptionnels qui étaient les post-existentialisme, disons. Et donc ça m'a fait gagner en tout cas au moins 2 ou 3 ans d'attente pour arriver à trouver en tout cas en peinture ma voix, quoi, disons.
C'est pas une légende alors cette espèce d'ambiance qui existait dans le quartier latin, il y avait vraiment cette possibilité de rencontrer et de discuter que ce soit culture, littérature.
Je sais pas si Raphaël il a eu la même sensation que moi, mais quand je partais le matin, j'allais prendre le café, par exemple, chez Flore ou le Demago à l'époque. Et ben, c'était très simple de se trouver à côté de Sartre ou à côté de Camus à l'époque, et de Ionesco, de toutes sortes de gens qu'on n'aurait jamais osé les déranger dans d'autres situations. T'as dit que là, passe-moi le café, passe-moi le sucre. Ça change quand même beaucoup de choses, hein, dans le rapport humain. Voilà, je sais pas si toi, tu as eu le même.
Oui, naturellement. Et puis, je venais de l'Espagne, de Franco. Donc, la différence était notoire, comme ambiance. Et puis, j'avais l'occasion, à propos de l'Escale, de rencontrer des artistes, des intellectuels et même des hommes politiques qui étaient à Paris pour différentes raisons, mais souvent en exil, et qui se réunissaient à l'Escale.
Ah, ils se réunissaient à l'Escale, alors?
Oui, oui, oui. Par là, ils sont passés des tas d'écrivains qui aujourd'hui sont très, très connus, comme García Márquez, Vargas Llosa, des prix Nobel, beaucoup d'écrivains, sans parler des artistes, peintres, que Romano les connaît mieux que moi, il peut te citer qui.
Ben, il y avait d'abord. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans un petit bistrot qui n'était pas l'Escale, mais c'était les Chats qui pêchent, rue des Chats qui pêchent. Et il y avait Soto qui venait de commencer à jouer pour se payer un peu de toile, quoi, pour faire de la peinture. Donc, ma première rencontre avec la peinture géométrique et cinétique, c'était quand même avec Soto au Chats qui pêchent. Après, il a fait un groupe, lui, je ne sais pas si. Avec une fille qui s'appelait
Carmela
et Paco Ibáñez. Ils ont fait un groupe qui passait à la Fontaine des Quatre Saisons, qui à l'époque, la direction artistique, c'était Pierre Prévert. Mm-hmm. Donc, je suis rentré comme ça, pratiquement assez rapidement dans ces circuits. Et puis j'ai eu la chance aussi, parce que j'ai eu que des chances, de rentrer très vite avec le groupe des Guaranis de Francisco Marin, qui malheureusement vient de nous quitter, et qui était un groupe prestigieux à l'époque. Et c'est le premier groupe sud-américain qui est arrivé à Paris.
Alors justement, Raphaël est espagnol, Romano, tu es italien. Pourquoi cet amour de la musique sud-américaine ?
Et en Italie, c'était vraiment la grande mode de la musique sud-américaine. On écoutait. D'abord, j'avais une petite émission à la radio et j'ai fait passer des sambas argentines, des choses comme ça, et même les Guaranis, qui venaient de percer un peu en Italie. Et ça a été fantastique de les retrouver à Paris et de rentrer dans les groupes, en plus, parce que c'est quand même assez extraordinaire. Voilà.
Alors, d'où est venue l'idée de monter le groupe Los Machucambos, Raphaël ?
Bon. Romano et moi, nous étions chanteurs-guitaristes à l'escale, n'est-ce pas ?
Oui.
Bon, chacun de son côté. Mais un jour, j'ai commencé à chanter avec un Mexicain qui avait à l'escale à l'époque, qui s'appelait Pedro Serrano. Et puis, on a commencé à chanter des chansons mexicaines. Et on a été rejoint par un Péruvien, Milton Zapata, et on a fait un trio. On chantait à trois voix et à trois guitares. Et on avait appelé ce groupe Los Acapulcos. Et on a joué pendant quelques mois dans différents endroits. On jouait dans un restaurant naturellement du quartier latin. Un jour, la patronne de ce restaurant est tombée amoureuse de notre ami Pedro. Et elle a décidé de partir en vacances en amenant Pedro avec elle. Alors, Zapata et moi, on restait seuls et on voulait remplacer Pedro. Et qui est-ce qu'on a trouvé ? Mais par hasard, à cette époque, il y avait à Paris une fille que Romano avait connue à Rome quelques ans auparavant et qui était de passage à Paris, qui s'appelait Julia. Et on a eu l'idée de mettre Julia à la place de Pedro, parce que Julia, on avait entendu à la escale que tout le monde pouvait chanter librement. Elle chantait très bien, elle connaissait nos chansons. Alors on a mis Julia avec nous et on a commencé à chanter tous les trois. Nous sommes partis en Espagne chez mes parents qui avaient une maison à la montagne. Et pendant un mois, on a répété des chansons et on a monté notre numéro avec Julia et Zapata. Et puis, nous sommes rentrés à Paris et on a commencé à travailler normalement dans des cabarets, dans des boîtes. On nous recevait facilement. On a joué à l'Écluse, qui était une boîte très prestigieuse à l'époque. Et là, il y avait des gens d'une maison de disques qui nous ont proposé de faire un disque, ce qu'on a fait. Et ce disque a été premié par l'Académie du disque, avec le Grand Prix du disque. Et on a fait notre premier succès, qui était La Bamba.
La fameuse Bamba.
Oui, La Bamba. La Bamba, que nous avons été les premiers à chanter pratiquement en Europe, parce que après, La Bamba a été très connue par d'autres groupes ou d'autres chanteurs qui viennent d'Amérique du Nord, mais qui n'ont rien à voir avec la version originale de La Bamba.
Alors à cette époque, La Bamba, elle avait déjà du succès en Amérique latine.
En Amérique latine, c'était une chanson comme une autre, mais en Europe, elle a eu beaucoup de succès parce qu'elle était une nouveauté. Les gens même ont commencé à danser La Bamba n'importe comment, mais elle dansait quand même. Et Brigitte Bardot l'a dansé dans un film avec notre disque. Et voilà, et on a fait donc ce disque qui a marché très bien. Et puis on a été engagé par les Jeunesses Musicales de France pour faire une tournée dans toute l'Afrique du Nord. On a fait le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie était encore française. Mmh. Et voilà, ça a été les débuts du groupe. Après, je vous raconterai comment ça a changé.
Alors, Julia avait-elle déjà ce caractère volcanique ?
C'était un caractère volcanique ?
Oui.
Ben oui, sûrement. Un caractère volcanique, ça c'est sûr. Mais enfin, ça avait un talent tellement grand que ça pouvait avoir très bien un caractère volcanique.
Non, parce que moi, je l'ai vu quand elle vient de temps en temps en France. C'est une femme qui est pétulante, de joie, d'exubérance extraordinaire.
Ouais. Bah bon,
et je voulais savoir comment elle pouvait être à 20 ans. Quoi.
Mais à 20 ans, c'était vraiment... D'abord, elle était superbe. Et puis, elle avait cette voix, presque une voix d'enfant. Hein, très joli. Moi, j'ai toujours senti, quand je chante Duermeleguide, on dirait que c'est un jeune homme qui chante, enfin, un petit garçon, cette voix très jeune, et qui a gardé d'ailleurs pratiquement. Et puis, évidemment, la maladie et les choses de la vie, ça a changé beaucoup de choses. Hein.
Encore voilà. Que là, il y a 3 ans à peu près, elle a chanté des chansons ici qui sont une merveille. Hein,
Oui, mais elle est une chanteuse exceptionnelle. Et là, tu l'as connue il y a 3 ans. Et puis, il faut dire que ça faisait plus de 30 ans qu'elle ne chantait pas.
Oui.
Nulle part. Donc, enfin, elle avait toujours ses qualités, mais elle avait perdu un peu de puissance, n'est-ce pas ? 30 ans sans chanter, c'est beaucoup. Mm-hmm. Bien. Alors, en continuant notre histoire, on a commencé à travailler avec les jeunesses musicales. Et puis, voilà, on a eu un problème avec notre camarade Zapata pour des questions tout à fait personnelles, plutôt politiques, parce qu'il était très intransigeant en politique et il ne voulait pas faire ami-ami avec Julia et moi, qu'il considérait que nous étions dans notre milieu incompatible avec ses opinions personnelles. Alors on a décidé de se séparer. Et Julia et moi, on a cherché qui pouvait le remplacer. Et naturellement, on connaissait très bien Romano, aussi bien elle que moi. Et on a dit, voilà, ça c'est la personne qu'il nous faut pour les groupes. Et voilà, on a parlé avec Romano. On a fait un échange avec les Guaranis. Romano est venu avec nous et Zapata avec les Guaranis.
Ah oui, c'est
cool. Et tout le monde content. Et puis nous avons eu la chance, une fois que Romano est rentré avec nous, d'enregistrer un disque dans lequel il y avait Pepito mi corazón. Ouais. Et c'est ça qui nous a lancé, à partir de ce moment, vraiment, a ouvert la porte des music halls, de l'Olympia et des différents endroits.
Alors comment vous avez abordé cette chanson? Je veux dire, elle vous est arrivée comment, cette chanson?
Oui. Bon, nous, personnellement, quand on a écouté ça, on ne voulait même pas la chanter. Enfin, d'abord, c'était un slow rock, c'était un rythme de rien de sud-américain.
Oui.
C'était des Américains du Nord, une femme, Carmen, quelque chose, et puis Truscott et Taylor, c'est des Américains, et ça nous avait été présenté par une édition, non ? Une édition de musique.
Oui, on travaillait avec les éditions de Francis Day à l'époque, et on voulait faire un double 45 tours, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et on avait 3 titres retenus. Il nous manquait un 4e, et c'est les gens de Francis Day qui nous ont dit: pourquoi vous n'essayez pas ces morceaux? Mais on était réticents, mais enfin, on l'a transformé le rythme de slow rock en cha-cha-cha, qui était à la mode à l'époque, et ça a donné le pépito que tout le monde connaît maintenant. Voilà.
Parce que c'est mondialement connu, et même maintenant...
Oui, tellement que les gens qui ne nous connaissent pas, les jeunes qui ne nous connaissent pas, ne connaissent pas notre nom, parce que ça fait déjà longtemps... Et quand on le dit, nous avons fait une chanson que vous connaissez sûrement, Pepito, tout le monde connaît. Tout le monde, même des jeunes. Des
ah oui, ans. La pub.
Oui, incroyable. C'est fou. Et donc, bon, ça a été un truc énorme. En plus, il était quand même resté 9 mois au hit-parade, hein, numéro 1 quand même. Chose qui ne s'était jamais produite en France. Voilà.
Alors comment on l'assume, cette notoriété rapide?
Raconte ce qui s'est passé. Voilà. Qu'on était à Val d'Isère pour faire un gala pour Jacques Brel. Là, il y avait eu des éboulements à l'époque, une énorme avalanche. Et on est allé donc chanter, entre autres choses, on est allé chanter aussi dans une boîte, très jolie boîte d'ailleurs. Et là, au fur et à mesure qu'on chantait, que tous les soirs on chantait, il y avait un petit photographe qui arrivait avec un paquet de disques comme ça de nous. Qu'entre-temps, ils avaient changé de place, ils avaient mis Pepito en premier du 45 et ils avaient mis une pochette avec Julia et Pepito grand comme ça. Et on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont changé la pochette. Et puis il a dit, mais vous êtes numéro 1. C'est ce petit photographe qui nous a dit qu'on était premier. On a dit numéro 1. On ne le savait pas. On ne le savait pas du tout. Et on ne chantait même pas d'ailleurs. On a commencé à les chanter à partir de ce moment-là.
Ah,
et
vrai.
Ça fait casser la baraque toujours parce que c'était vraiment la chanson qui a eu le plus de succès dans cette année-là, à mon avis.
Ah, c'est quand même c'est extraordinaire.
C'est ça.
Oui, parce que nous faisions surtout, à nos débuts, des chansons du folklore de l'Amérique latine ou des grands poètes et compositeurs comme Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, on ne faisait pas de la musique pour danser. Mais ça nous est tombé comme ça, un pépito, et puis ça nous a marqué pour la vie, parce qu'on ne peut plus se défaire de cette chanson.
Qu'est-ce que vous vouliez faire avec au niveau des Machu Cambos? Est-ce que vous aviez une vision de faire connaître la musique latine, ou des visées politiques, ou poétiques? Quelle était votre intention? Ou de vous amuser tout simplement?
Au départ, pour moi, c'était pour faire connaître cette musique. Et puis, j'avais déjà fait mes armes avec les Guaranis, qui m'ont apporté énormément de beaucoup de conseils, des rythmes, de manière. Mais c'est après, petit à petit, évidemment, l'histoire des années 60 jusqu'à 68, ça nous a quand même, d'une certaine façon, on sentait qu'il y avait un bouleversement et qu'il fallait prendre un peu parti, et on a commencé à chanter des chansons un peu plus engagées, mais sans jamais être sous les barricades non plus, avec les poings levés. Voilà.
Alors, dans les chansons ou dans les airs que vous avez pris, est-ce que vous avez composé de votre côté?
Raphaël, il a composé beaucoup de chansons. Moi, très peu, mais Raphaël, beaucoup.
Oui, nous avons fait beaucoup de disques. On a enregistré plus de 700 chansons.
Enfin, oui.
Parmi les 700, bon, il y en a très peu qui ont été composées par nous, mais enfin, il y a quand même une bonne douzaine de chansons originales et pas mal d'adaptations de chansons françaises ou américaines à l'espagnol.
Mujer, mujer, mujer. Si puedes tú con Dios hablar.
Con Dios hablar.
Alors vous étiez trois, et vous êtes restés trois pendant combien de temps avec Julia?
Mais le temps que Julia restait avec nous, qui malheureusement a dû être interrompu à cause de sa maladie, elle a chanté avec nous pendant 14 ans. Puis elle est tombée malade, elle est partie dans sa famille, dans son pays. Et puis Romano et moi, on a cherché qui la remplaçait, et heureusement on a trouvé Marie Alicata, entre autres, qui ont commencé à travailler avec nous. Et puis on pensait que ce n'était pas assez suffisant pour remplacer Julia, et on a voulu ajouter une autre voix féminine qui touchait à notre genre de musique. Et on a fait les quartettes pendant des années, jusqu'à il n'y a pas longtemps.
Avec Marianne Montalvo, qui maintenant fait une petite carrière toute seule, et qui a chanté d'ailleurs à Saint-Germain-des-Prés il n'y a pas longtemps.
Oui. Alors, il y a eu une grosse différence au niveau de la entre le groupe de Troyes et la reformation de ce groupe avec deux nouvelles femmes. Est-ce que ça s'est passé sans heurte? Est-ce que ça a été dans la continuité?
Oui, ça a été bien. Il y avait un problème d'arrangement à quatre voix au lieu de trois voix, donc ça a changé quand même les sons. Mais c'était très bien, c'était vraiment intéressant comme recherche. Et puis bon, avec Maria et Mariana, ils sont restés avec nous quoi, 20 ans, moins 25 ans.
Oui, mais Maria plus que ça, oui.
Hein, parce que on avait, quand Julia est tombée malade, on devait faire, une semaine après ou 15 jours après, on devait être à l'Olympia avec Aznavour. On devait faire la première partie d'Aznavour pendant 6 semaines et lui faisait la deuxième partie. Mais il avait quelqu'un compté avec Julia, bien sûr. Et quand elle est tombée malade, on est allé voir notre impresario, Ronald Ribé, et puis Charles Aznavour. Il a dit à Ribé, il a dit à l'impresario, il a dit, écoutez, le groupe ne s'appelle pas Julia Cortés, il s'appelle les Machu Cambos, alors trouvez une chanteuse pour la remplacer et vous faites l'Olympia. Mm-hmm. Et au fond, ça a été pour nous le tournant de notre carrière, parce que sinon, on se serait complètement suicidé. Ça a été vraiment pour nous, Aznavour est resté quelqu'un qui a pris un courage énorme à dire faites-le quand même, c'est quand même formidable. Et ça a marché.
Est-ce que vous avez toujours eu dans votre groupe un apport d'instruments, ou par moment vous jouez a cappella? Est-ce que ça vous est arrivé?
Il y a quelques petits morceaux a cappella, mais enfin, on a toujours eu au moins nos guitares, Romano et moi. Et très souvent, on est accompagné par d'autres musiciens qui vont d'avoir un bassiste et un batteur à avoir un orchestre avec des violons et tout ce qu'il faut. Oui. On a des différents genres d'expressions pour les disques. On a touché à la musique de tellement de pays différents qu'on ne peut pas tout faire d'une façon similaire. Il faut changer.
Alors, comment se répartissaient les voix entre vous deux et les deux femmes? Qui faisait les voix de basse? Comment ça se passait?
En principe, il y avait toujours une voix leader. aussi oui. bien homme que femme, ça dépendait de la chanson. Hein. Mmh. Et puis, ben, bon, Raphaël et moi, moi je suis plutôt baryton. Raphaël, il chantait plus grave que moi, en principe. Mais à l'époque, il montait très haut aussi. Parce qu'il passait un peu en voix des têtes. Enfin, c'était, mais bon, maintenant, ça a changé un peu parce qu'on vieillit. Et donc, il y a certaines notes qu'on n'attrape plus de façon claire comme on les attrapait à certains moments.
Et qui faisait les arrangements en général?
Raphaël, très souvent.
Toujours Raphaël.
On était là, en tout cas, on pouvait dire, on disait, écoute, ces trucs, ça serait bien comme ça, ça serait bien peut-être le faire. Mmh. Ou alors, j'ai entendu tel show, tel chanteur chanter ça comme ça. Et donc, mais enfin, c'est lui qui écrivait oui, les partitions.
J'avais fait des études de musique, donc je pouvais écrire la musique. Je faisais des arrangements sur papier. Et après, on essayait. Voilà. Essaye-toi de faire ça. Toi, on voyait à qui convenait mieux une voix ou une autre. C'est comme ça.
Et les textes aussi, c'est important. Parce qu'un texte pour un homme, chanté par une femme, oui. ça devenait ridicule.
Oui, ça n'avait pas de sens. Passait comment ça se passait justement entre vous?
Eh bien, on changeait. Oui. Si c'était une voix pour un homme, il y avait Raphaël et moi qui prenaient la première voix. Et puis les filles faisaient de la tierce. Et puis les arrangements de la quatrième voix, qui sont très, très difficiles en plus à capter, parce que c'est tout à fait une autre structure quoi, musicale par rapport au trio. Hein.
Quand vous faisiez par exemple des disques, ou que vous étiez en enregistrement, en concert, comment vous perceviez le son? Est-ce que vous vouliez un son particulier? Qu'est-ce que vous vouliez au niveau, par exemple, des enregistrements de disques? Est-ce que vous étiez très pointu, très demandeur sur un type de son?
On voulait un son assez naturel, je crois, non? Et puis à l'époque, tu sais, avec un bon chour qui prenait dans toutes les directions, on s'est mettait autour et on chantait comme ça, c'est passé.
Oui, c'est ça.
C'est dans un temps beaucoup plus tard qu'il y a eu un micro pour chaque voix. Donc, on n'avait pas...
En fait, les prises de son se faisaient comme si c'était un orchestre de jazz.
Les pépitos étaient pris pratiquement avec un micro pour les percussions, pour la soliste, Julia. Et puis nous, on faisait wah wah derrière, en s'approchant du micro, un truc comme ça. Je me rappelle même pas si c'était pas sur quatre pistes qu'on avait.
Ouais, au début, il y avait pas toute la technique qu'il y a maintenant. Évidemment, on chantait sur un micro. Il y avait même pas de chambre d'écho. Chez DEC, ils ont fait une chambre d'écho mais naturelle, en creusant par terre. Et c'est tout ce qu'il y avait comme effet, il n'y avait pas autre chose. Et la technique, c'était les techniciens qui étaient derrière la console qui décidaient ce qu'il fallait faire. Nous, on n'avait pas notre mot à dire.
C'était tout à fait un autre métier. Hein. Rien à voir. Hein. Et pourtant, les enregistrements sont magnifiques. Hein. Quand on les écoute, même aujourd'hui, les disques, justement, du Grand Prix du disque, là, c'est impeccable. C'est comme si ça avait été fait hier. Hein. D'ailleurs, je crois que ça a été même primé, entre autres choses, pour les sons. Ou les sons, parce qu'il y avait un ingénieur du son.
Nous avons été les premiers dans les variétés à enregistrer un disque en stéréo. Le premier. Et nos disques au début sortaient en version mono ou version stéréo, avec des pochettes différentes de couleurs et tout ça. Oui.
Et puis la stéréophonie, la quadriphonie.
Et après, la quadriphonie, ça n'a pas marché, mais on a fait aussi la quadriphonie. Les effets ping-pong, il y avait un technicien avec une manette qui envoyait à gauche ou à droite selon son goût. Ça nous consultait.
Oui, l'harpe, par exemple, il faisait jouer un couplet à droite et un couplet à gauche pour avoir un effet ping-pong. Mais ces disques-là se sont vendus très bien aux États-Unis parce que c'était presque des disques de démonstration, de haute fidélité. Donc, ils se sont vendus énormément. On a eu de belles surprises de ces disques américains.
Une collection qui s'appelait Phase 4. Phase 4.
En anglais, Four Face.
Et ça a très bien marché partout. Oui. Et c'est des disques qu'on a fait en chantant les chansons dans les studios de Decca à toute vitesse. On s'est réunissait sans savoir ce qu'on allait chanter. Et au bout de la nuit, on avait enregistré une dizaine de chansons. Improvisées, pratiquement tout.
D'accord.
Oui.
Est-ce que les maisons de disques avaient leur propre studio ou alors elles commandaient vous alliez dans un studio particulier à l'extérieur ou c'était au sein de la maison de disques?
Non, c'était au sein de la maison de disques. Hein.
Oui, la maison de disques avait un studio propre, c'était DKRCA, rue Beaujon, et c'était à eux le studio, un énorme studio, vous pouvez mettre 50 musiciens pour un orchestre symphonique.
On a du mal à imaginer maintenant que ça se passait comme ça, en fait. Ça fait pas si longtemps et ça a tellement changé.
Ça fait quand même presque 50 ans, hein, cette époque-là.
Parfois, on mettait le pianiste à 4 mètres de hauteur à côté du plafond, parce qu'il paraît que les sons étaient meilleurs.
Oui,
on montait le piano
avec... On a des trucs à caravane aussi. On mettait les batteurs dedans parce que pour que les sons ne sortent pas, ce soit un son vachement clair et qui ne déborde pas sous l'extérieur. Et c'est là où on a fait vraiment des très bons sons, des très bons disques comme ça. Ça a déjà commencé, à cette époque-là, déjà à changer.
D'accord. Alors, il y avait combien de musiciens, par exemple, dans ce type d'enregistrement ? Parce que vous étiez à la guitare, mais qu'est-ce qu'il y avait avec
vous ?
Oui,
on prenait les musiciens au fur et à mesure de ce qu'on allait chanter.
Oui.
S'il y avait de la musique vénézuélienne, on prenait un joueur de cuatro, un autre de maracas, et deux guitares. Et harpe, par exemple, peut-être une percussion parfois. Sinon, avec le Candor Pass, on a appris le flûte indienne, le flûte des pans. C'est au fur et à mesure qu'on faisait. Mais on était toujours présent avec la guitare quand même. Hein. On jouait toujours avec les musiciens, quoi. Enfin, avec tous les musiciens.
Il n'y avait pas de difficulté pour trouver les musiciens adéquats ou c'était toujours facile ?
Mais il y avait la source inépuisable de l'escale. À l'escale, il y avait tout ce qu'il fallait, parce que tout le monde venait à l'escale. Alors, on n'avait que l'embarras du choix pour prendre des musiciens.
Oui, c'est ce que disait Pascal Coulon dans son interview. Il disait ce qu'il y avait d'extraordinaire avec l'escale, c'était que... Il y avait 4 groupes ou 5 groupes qui passaient dans la soirée.
Oui.
Et ils jouaient pendant 20 minutes et il y en avait un autre qui passait. Oui. Et il a dit que c'était foisonnant et extrêmement riche.
Oui, mais c'est qu'il y a, si vous voulez, ce qui a tout détruit, c'était quand il y a eu la réforme. On a commencé à payer des taxes tellement importantes sur la musique, sur les consommations, comment on n'a plus se permettre d'avoir des musiciens. On est resté avec le strict minimum, mais il y a eu des moments où il y avait 12 musiciens à l'escale, aussi bien haut qu'en bas, et les rez-de-chaussée, qui l'a fait la cape.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'escale donc, est une petite boîte qui se trouve rue Monsieur le Prince, qui existe toujours, et qui a la particularité d'être très petite. Elle est sur 2 niveaux, donc il y a la cave et puis le rez-de-chaussée, et c'est tout petit. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui, déjà, quand on rentre, est très chaude, très, très agréable, finalement.
C'est le cas de le dire.
Mais il ne faut pas tromper tout le monde. Maintenant, ce n'est plus la même chose, il faut le dire. Nous, ça fait 10 ans qu'on a vendu l'escale. Et les gens qui l'ont pris et qui continuent à l'exploiter, mais ils n'ont plus de musiciens, ils n'ont plus de musique latine, ce n'est pas la même chose, il faut prévenir tout le monde.
Alors justement, on va revenir à cette escale, pourquoi l'avoir achetée ?
Pourquoi ? Parce qu'on venait de vendre je ne sais pas combien de millions de disques de Pepito, qu'on avait du fric... Et qu'un jour, Romano est allé à l'escale et il a vu la patronne qui lui dit « Je m'en vais, je vends l'escale. »
On était très attachés à l'escale.
Et Romano a sorti le carnet de chèque.
J'ai fait un chèque tout de suite. J'ai dit « C'est nous. » Mais il fallait convaincre après Raphaël et Giulia. Et à l'époque, je me souviens qu'ils avaient une DS, une voiture DS. Et on était garés sur la place de l'Odéon, du théâtre de l'Odéon. Je suis revenu on est resté parler, je sais pas moi, 5 ou 6 heures. Est-ce qu'on achète l'escale ou non? Et je disais, mais c'est pas la peine d'assister, j'ai déjà payé une partie. Alors, oui, mais j'ai dit, écoute, et nos vieux jours, il faut bien qu'il nous reste quelque chose, un truc comme ça. Tu vois. Et bon, finalement, on a réussi à se mettre tous d'accord, et puis voilà, quoi, acheter l'escale.
Alors, comment peut-on gérer une boîte comme l'escale avec la carrière musicale telle que vous l'aviez à ce moment-là? Parce que c'est ça qu'on a du mal à imaginer.
C'était très difficile. À mon avis, pour moi, c'était très difficile.
Mais on l'a géré très mal. La preuve, c'est qu'on n'a jamais gagné un sou avec l'escale. Mais en réalité, pour nous, c'était presque un hobby. Et un endroit pour se rencontrer et s'amuser un peu et faire de la musique nous-mêmes, chanter quand on avait envie. Mais enfin, on avait des employés qui s'occupaient bien ou mal, évidemment... à leur bénéfice de gérer l'escale.
Alors les musiciens à l'escale, ils se plaçaient où? Ils étaient en bas ou en haut?
Il y avait des niveaux. Il y avait les niveaux du rez-de-chaussée où faisaient la musique folklorique, ne serait-ce que pour ne pas perdre trop de percussions, pour ne pas déranger les gens quand même. Mm-hmm. C'est la petite, la rue, mais c'est les brins. Hein. Puis en bas, par contre, on avait les percussions cubaines, avec un orchestre cubain qui faisait danser. Et ça, c'était vraiment le tonnerre de Dieu. Hein. Ça sonnait très bien. Et c'est là où les gens se battaient pour rentrer, hein, le vendredi et le samedi.
Oui, il y avait la queue devant l'escale tous les jours de la semaine.
Incroyable, incroyable, incroyable.
Alors, vous aviez acheté l'escale en quelle année, en fait? C'était en quelle année, à peu près?
64.
64.
Ouais. 64. Deux ans et demi après Pepito. Ouais.
Alors, les événements qui se passaient à ce moment-là en Amérique latine, début des années 60, avec Fidel Castro, la mort de Che Guevara, est-ce que ça a eu une incidence, vous, dans vos choix de chansons et dans votre façon de penser et façon de voir les choses?
Pour ce qui me concerne, j'ai toujours chanté les chansons des Yupanqui bien avant toute cette période, qui était très dure et déjà très engagée. Il a risqué quand même des trucs pas possibles, Yupanqui. Puis Violetta Parra, elle a chanté quand même une chanson sous les papes, qui est c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment très engagé. Et puis il y a eu Carlos Puebla qui a fait Che Guevara, mais pas pour la mort de Guevara, il a fait un hommage à Guevara, oui. Il était vivant. Oui. Ça, on l'a chanté, par contre. Mais ça a été interdit à la radio et à la télévision, en France.
Ah, en France, ça a été interdit?
Oui, il y avait une censure. Il y avait le ministère de l'Information. Bon, donc, et on était en train de faire une émission à Guy Lux, qui s'appelait les palmarès des chansons.
Oui.
Et la chanson s'appelait « Hasta siempre, comandante ».
Oui.
C'est-à-dire que Guy Lux n'a pas entendu les mots de Che Guevara, parce que dans les titres, il n'y avait pas ça. Quand on a commencé à chanter... Tu te rappelles, enfin, dès qu'on terminait un couplet, les gens s'élevaient et applaudissaient comme ça. Et Guy Lux, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et je suis sûr qu'il y a eu quelqu'un du ministère qui a dû dire, vous arrêtez avec, c'est tout pas maros. Tu vois? Et ça nous a enlevé quand même 4 ans, parce que c'est un grand succès, Che Guevara.
Oui, oui, c'est vrai.
Plus maintenant qu'avant, quand même, qu'à l'époque.
Oui, une espèce de mode qui est revenue là, depuis quelques années.
Oui, enfin disons, voilà, quoi, c'est assez clair hein, tout ça. Hein.
Alors au niveau des musiques d'Amérique latine, quels sont les pays qui vous ont le plus attiré au niveau musical?
Mais tous. On est attiré partout parce que chaque pays a sa personnalité propre et c'est très très beau dans chaque pays, mais... Bon, moi, par exemple, j'avais été toujours intéressé depuis mes débuts, même des amateurs, pour la musique cubaine et la musique mexicaine. Et j'ai découvert après, à l'escale, la musique du Venezuela, de Colombie et d'Argentine, que je ne connaissais pas. Hein. Et puis, il y a eu la vague de la musique brésilienne, évidemment, la bossa nova, tout ça qui nous a donné un coup sur la tête parce que c'était vraiment extraordinaire.
Pourtant, c'est pas les mêmes rythmes, hein. C'est totalement différent les uns des autres.
Ah oui, complètement, oui. Mais même, c'est même pas la même langue.
C'est même pas la même langue,
c'est
en plus.
C'est le portugais,
oui.
L'espagnol. Hein. Mais enfin, c'était un moment mythique, cette période-là de la bossa nova, parce que comment on ne peut pas organiser les phénomènes de bossa nova qui s'est passé, parce qu'ils se sont tous enfermés, les plus graves, Vinicius, Jobim, Baden Powell, et ils sont restés, je sais pas, enfermés pendant combien de jours à boire et à composer, et à la sortie, il y avait au moins 20 titres qui sont immortels.
C'est vrai, oui.
C'est quand même un truc complètement dingue, hein. C'est fou l'estro, l'harmonico, comme on dit en Italie, que ça s'est produit, une fois dans un siècle, chose comme ça.
Et quel a été l'impact que vous avez eu en Amérique latine, vous, issus de milieux très différents, de langues différentes, parce que l'Espagne européenne par rapport aux pays latins, d'Amérique latine, sont quand même différents.
On n'est pas très hyper connu en Amérique, à part le Costa Rica, parce qu'évidemment, Julia Cortés, c'était une star, évidemment. Mais par contre, je pense qu'en France, on est plus royaliste que les rois. Quoi. Enfin, disons que nous, quand on a chanté, les fois qu'il nous a donné l'occasion de jouer en Amérique du Sud, les gens ils étaient très contents. Et quand on a fait les festivals de Varadero à Cuba, ils ont créé pratiquement un prix pour nous, c'est-à-dire les divulgateurs européens de la musique sud-américaine. Donc, tu vois, donc c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Et c'est, moi, je trouvais ça très bien. Parce qu'en France, on te dit, ah oui, mais comment tu es italien, comment tu chantes ça? Donc, toutes les fois, il fallait expliquer que j'étais venu tout à fait raconter toute l'histoire.
Oui, oui.
Et parfois, même Raphaël, je pense qu'on a dit, mais comment tu es espagnol, tu chantes... Il y avait une espèce de truc à l'époque, comme ça, où il fallait que ce soit très clair, très c'était Descartes, quoi, tu vois. Et donc, si tu étais en italien, tu ne pouvais pas chanter la musique d'un autre pays, tu vois, la rigueur. Chose qui était absolument absurde, non? Il faudrait empêcher les chanteurs espagnols de chanter l'opéra italienne à ce moment-là. Ça n'a pas de sens.
Et comment vous voyez, vous avez vu votre... Est-ce que vous avez voulu une évolution dans votre musique, dans votre façon de chanter, ou tous les deux, enfin, tous, vous êtes restés dans une espèce de cercle, enfin de sphère, où vous dites non, on fera toujours ça. Est-ce que vous avez vu une évolution, est-ce que vous avez voulu une évolution dans votre... Dans votre façon de chanter, ou dans votre façon de composer, ou dans votre façon, dans vos choix de chansons?
On n'a jamais planifié ça d'une façon ou d'une autre. Nous, on a envie de faire une chanson, on se met, on l'a fait. Et en général, je crois qu'ils sont toutes depuis 50 ans à peu près dans le même style, la même ligne. Des gens, il n'y a pas une planification de quoi que ce soit.
Il y a un son. Il y a un son, Machu Cambus, c'est quand même, quand on réécoute toutes les chansons, il y a un son, c'est de ça, je crois, que ça frappait beaucoup. Et même les Sud-Américains, ils trouvaient qu'il y avait, d'abord, il y avait les enchaînements des tours des chants qu'on avait appris à l'Olympia, parce que Cocatrix, il nous a appris à enchaîner les chansons, pratiquement. Presque à la fin des applaudissements, on commençait la deuxième chanson, la troisième. Donc, il y avait une dynamique. Qu'en Amérique, à l'époque, ça n'existait pas. Même en Espagne, d'ailleurs. Les chanteurs, ils présentaient la chanson pendant 10 minutes avant de la chanter. Donc, par contre, ça allait comme ça. Et évidemment, ça faisait monter la température.
Vrai. C'est vrai, parce que moi, je suis issue d'une famille plutôt portée sur l'anglo-saxon. Et il est vrai qu'on n'a jamais écouté de chansons, quoi que ce soit, latines. Mais il y a une chose très particulière, c'est que quand on vous entendait à la radio ou à la télévision, on savait que c'était Los Machu Cambus. C'était comme, par exemple, Johnny Hallyday actuellement, on l'entend un petit peu loin, on dit, ah bah tiens, ça c'est Johnny. Et on vous entendait, même quand j'avais 12, 14 ans ou 15 ans, j'achetais pas des disques et... Mais si on vous entendait la radio, je dis, ah oui, tiens, c'est le fameux groupe, c'est Los Machu Cambus. Ça, c'est vrai qu'il y avait un son particulier.
Tant mieux. C'est formidable.
Alors, comment s'est passé dans les années 70, que devenait le groupe Machu Cambus après toutes les années 60 où c'est l'euphorie totale, finalement? Et les années 70, alors comment les voit-on? Parce qu'on est après 68. Et comment... qu'est-ce que devient le groupe Machu Cambus?
Ben, il a continué, son petit bonhomme de chemin.
Mais surtout, dans les années 70, c'est la disparition de Julia. Et puis l'arrivée des autres chanteuses.
La disparition, elle repart chez elle, c'est ça?
Oui, voilà. En 72, elle est partie. Alors, à partir de là, évidemment, il y a eu un changement avec une nouvelle chanteuse. Puis une quatrième chanteuse... qu'on a changé deux ou trois fois aussi, pour différentes raisons. Voilà. Mais à part ça, ben, on a continué à travailler, et faire des disques, à faire des musicals.
Tournées, beaucoup de tournées.
Partout.
Alors les tournées, ça consistait... qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque, une tournée, par exemple? C'était combien de concerts?
À cette époque, on faisait la tournée, par exemple, sponsorisée par Ricard, c'était un grand podium, hein. Et avec un spectacle entier, avec un orchestre de 20 musiciens, enfin, et c'était tous les jours une ville. On démontait les podiums, on les remontait, et après, quand on faisait par exemple la tournée de l'Atlantique, c'était sur bâche, c'était sur une toile de cirque.
D'accord.
Donc, pour la pluie, parce que très souvent il pleuvait. Mais sinon, moi j'ai un bon souvenir.
Oui, on avait des caravanes pour nous loger. On voyageait avec chacun avec sa caravane.
C'était très cool, hein, oui. C'était bien.
C'était pas usant.
On faisait deux mois, plus de deux mois de suite, tous les jours.
Mais c'est un peu comme Adjutant de la Tête des Bois, là, qu'on vient de terminer, enfin, il y a des ans.
Oui.
Et pareil,
oui, c'est vrai que vous avez fait partie
tous les
de
jours,
cette grande tournée.
Oui, avec, mais avec 5 000 personnes par jour, pratiquement, des moyennes.
Alors justement, par rapport à ces tournées des années 70 et cette fameuse tournée à Achetendre et Tête de Bois, quelles sont les choses qui vous ont plu et les différences que vous voyez, que vous regrettez? Y a-t-il des choses que vous regrettez par rapport aux anciennes tournées en disant « Ah, ça n'existe plus, ça, c'est dommage ».
D'abord, on chantait que 4 chansons, chacun. Il y en a qui chantaient même 3. Hein. Donc 4 chansons, tu ne peux pas... Mais nous, on cassait quand même la baraque avec 4 chansons.
Tu parles d'Achetendre.
Achetendre, oui, Achetendre, oui, oui. Sinon, les tournées, on a fait les tournées des journaux, comment il s'appelle, le Varmatin. Il faisait une tournée très jolie l'été.
Oui, c'est vrai, oui.
En été, c'était vraiment dans les petites places des villages à Provence. Et ça, c'était vraiment très chouette. Là. Parce qu'on faisait maximum 50 km par jour. Non
comme oui, c'était commode.
C'est comme ça. Hein.
Maintenant, quelle est l'actualité? Qu'est-ce que vous faites
Fait un disque avec notre grand ami Philippe, qui est ingénieur du son, qui nous apprend très bien, on est très contents, et on attend de terminer les disques pour les sortir à la rentrée, je pense. Hein, avec les mêmes, probablement les producteurs d'Achetendre Tête des Bois.
D'accord.
Les distributeurs, en tout cas.
Est-ce que vous prévoyez des concerts? Je sais que vous avez fait une tournée sur paquebot.
Ah oui.
Oui, on a fait des croisières. Mais ça, c'est presque des vacances plutôt qu'autre chose, oui.
Alors, comment ça se passe sur un paquebot? Vous avez un concert tous les soirs, un concert... Ça se passe... Comment ça se passe?
Un concert dans toute la croisière qui dure 3 semaines. On joue un jour seulement.
Voilà. C'est vrai?
Oui.
Parfois deux, quand même. Hein. Parfois un au début de la croisière et un autre à la fin. Parfois. Un concert d'adieu, les jours avant d'arriver. Oui. Mais on passe deux fois. Selon la grandeur du paquebot. S'il est petit, on passe deux fois, parce qu'il ne peut pas tous voir. S'il y a une grande salle de concert, entre parfois, maintenant c'est incroyable, parce que c'est, les paquebots, moi je les appelle des HLM de luxe. Hein. C'est vraiment, ils ont 5 étages, 6 étages, avec des petites fenêtres, avec un balcon, c'est incroyable.
Ce sont des concerts à combien de personnes, à peu près? Vous avez combien de spectateurs sur ces paquebots?
Mais sur les paquebots, ça dépend du paquebot. Là, on a fait récemment un paquebot qui avait 400 personnes à bord, c'est tout. Sur les 400, mais il n'y en a pas tous qui viennent, peut-être il y a 300, je ne sais pas. Mais au mois de décembre, on va faire l'inauguration du plus grand paquebot du monde. Il y aura 4500 personnes. Et la salle de spectacle est plus grande que l'Olympia.
Ah d'accord. Oui.
Alors ça va être autre chose encore.
Et donc là vous avez le groupe, vous avez les musiciens, comment ça se passe?
Non.
Oui. Non,
non.
Oui.
On n'a pas parlé de notre dernière chanteuse qui est avec nous déjà depuis presque 3 ans,
oui.
Qui est une Vénézuélienne, Haïli Soto. Elle s'appelle Soto parce qu'elle est mariée avec Soto, le fils du peintre.
Hein? Oui, finalement on retombe toujours dans les mêmes familles. Hein,
voilà. Mais sans les vouloir.
Sans le vouloir, c'est
les hasards.
Ça se fait. Et dans le disque qu'on est en train d'enregistrer, bien évidemment, elle chante avec nous. Et puis, il y a son mari qui a fait l'orchestration de plusieurs chansons. Et voilà, on se retrouve. Oui, on travaille avec Hailey depuis presque 3 ans maintenant. Et nous sommes très contents. J'espère qu'elle aussi.
Donc là, vous êtes 3 dans le groupe. Vous êtes retombé à une chanteuse et 2 chanteurs.
Voilà.
D'accord.
Oui. Mais je croyais que c'était important. Évidemment, Maria et Marianne ont aidé pendant 20 ans avec nous, c'est quand même extraordinaire. Elles ont quand même maintenu les groupes avec nous et ils y ont cru et ils n'ont pas renoncé un seul instant à quoi que ce soit, ils étaient complètement impliqués. Mais dernièrement, Maria, elle ne voulait plus chanter pour des raisons personnelles. Enfin, et Mariana, justement, elle fait une petite carrière, elle fait une carrière, c'est pas dire, elle a beaucoup de talent. Et il fait des chansons, des interventions, des concerts. Et elle est prof de chant aussi. Donc, elle s'est rangée, disons. Elle a tellement envie de faire dans les groupes. Donc, ce n'est pas nous qui... Nous, on aurait bien aimé qu'il reste, si elle voulait. Mais enfin, bon, et c'est comme ça qu'on est tombé sur elle, un soir, comme ça, autour d'un churrasco, dans les jardins de Christophe.
Ah oui, alors, dernièrement, vous m'avez fait part, tous les deux, de cette fameuse inauguration de la salle qui s'appelle Los Machucombos.
C'est après d'Evreux.
près d'Évreux.
Un petit village, hein, c'est un petit... À côté, si, je ne sais pas si tu connais Conchanouche.
Non.
Conchanouche, c'est un très joli village, très moyenâgeux comme ça. Et à côté, il y a la Ferrière. Et le maire de ce village, il nous aime beaucoup. Et puis mon fils a une maison de campagne avec son ami là-bas. Et ils ont eu cette idée de nous faire venir et d'inaugurer une salle qui venait d'être terminée à notre nom. Donc on est allé, on a fait deux concerts, évidemment gratuits, pour qu'ils puissent se renflouer un peu, parce qu'il avait dépensé beaucoup d'argent. Et puis voilà, il y a une belle écriture là. Los Machucambos. voilà. Rouen, c'est autre chose. C'est plutôt la peinture.
C'est plutôt la peinture. Oui. Quels sont les pays où vous n'êtes jamais allé?
Il y en a un paquet.
Il y en a beaucoup.
C'est sûr, ça?
En Asie, à part le Japon et le Moyen-Orient, on n'a été nulle part. Hein, ni l'Inde, ni la Chine, même pas la Russie.
Non.
Voilà. Il y avait peut-être plus de problèmes en Russie, enfin l'Union soviétique.
Oui, mais ben non, on a été.
Aujourd'hui, on aurait pu
à
aller.
L'époque, dans les pays communistes, on avait été en Pologne, on avait été en Yougoslavie de l'époque, en Roumanie, mais on n'a jamais été invité en Russie.
À part ça. En Allemagne, on est allé souvent.
Ah, oui.
En Belgique. Le Canada, beaucoup.
Le Canada, on l'a fait, oui, Canada. Mais il y en a beaucoup.
Mais on avait aussi, parce qu'on avait pas mal de travail ici, on n'avait pas tellement envie d'y aller.
Hein. Oui, visiblement.
Pas forcément. On nous a fait des propositions, mais ça ne correspondait pas à ce qu'on voulait, et puis on n'y allait pas. Hein. On n'en avait pas besoin à l'époque. Enfin, parce que je voulais te dire que quand tu m'as parlé des années 70, 71, qu'est-ce qui m'allait plus frapper, c'est que ça faisait au moins depuis 61... que je ne prenais plus le métro. et au début des 70, comme on commençait à baisser notre télévision, j'ai commencé à prendre le métro. Et ça m'a fait un drôle d'effet quand même. Hein. On sent vraiment la différence. J'avais une voiture, je me déplaçais constamment en voiture ou en taxi. Je ne me souviens pas d'avoir remis les pieds dans le métro pendant 14 ans. Ça, c'est quand même drôle. Hein.
Ouais. Très bien, mais écoutez, je vous remercie tous les deux d'être venus, d'avoir parlé des Machucambos. Grande carrière, on fête les 50 ans l'année prochaine.
Eh oui.
Vous avez quelque chose de prévu pour vos 50 ans?
Non,
on va voir, c'est jamais.
C'est la surprise.
Dans notre vie, tout s'est passé comme ça, hein, par les hasards. Hein, ils sont arrivés, vous avez vu comment c'est passé. Pour que les Machucambos, comme tout le monde venait, peut-être que le 50e anniversaire, il va y avoir un type qui va dire, ah, tiens, on va fêter ça, on va faire telle chose. Hein. C'est jamais. Hein.
Très bien. Alors moi, je dis un petit bonjour à Roulia, que j'embrasse très très fort. Et puis, j'espère que vous allez venir pour nous présenter votre disque.
Bah oui.
À la rentrée, là.
Hein? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
Bien, merci Raphaël.
Merci à toi.
Merci à tous les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Ben oui, voilà. À très bientôt.
Super. Allez, au revoir. Ici, autre radio, autre culture. À bientôt.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Autre radio, autre culture.